Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Néhémie, au chapitre 13. On achève notre série dans Néhémie. Quel livre, hein? Néhémie, chapitre 13. Je ne vais pas terminer ce matin, même si on va terminer disons, les portions du livre elles-mêmes. La semaine prochaine, on a un prédicateur invité. Et le dimanche suivant, je vais vraiment terminer la série. Mais je veux prendre le temps, justement, dans deux semaines, de résumer l'ensemble des principes qu'on peut tirer de ce livre-là et aussi voir ensemble dans quelle mesure tout ceci n'est réalisable véritablement qu'à travers la personne de Jésus-Christ. Alors, on va faire ça ensemble dans deux semaines. Donc, la série va se terminer seulement dans deux semaines. Avant de commencer à lire Néhémie 13, je veux vous annoncer quelque chose, puis en même temps rendre hommage à cette personne-là. Hier soir, à 19h, M. Keith, Ernest Keith, est décédé. C'est pas tout le monde ici qui l'a connu. M. Keith était un homme extraordinaire. C'est un homme qui a servi cette assemblée ici. C'est un de nos pionniers. Le Québec a été atteint par l'Évangile, on pourrait dire, en trois vagues. La première vague, ça a été la vague de la colonisation où un grand nombre de chrétiens francophones sont venus ici. On les appelait des Huguenots. C'était des protestants francophones. Cette vague-là a été persécutée très agressivement. Au départ, ils quittaient justement la France pour venir se réfugier ici et trouver une terre où ils pourraient vivre leur foi librement. Mais cette vague d'évangélisation dans cette terre-ci a été persécutée très agressivement. Et donc, ça a été à peu près éradiqué. On a eu une deuxième vague ensuite à l'époque Madame Feller de Louis-Roussy, après ça avec Shiniki, qui était une vague presque aussi importante que le nombre d'évangéliques qui est actuellement au Québec. Celle-là aussi a été complètement éliminée. Et puis, il y a eu une troisième vague d'évangélisation du Québec, et c'est celle que nous connaissons. Nous sommes les fruits directement de celle-là. Et ce sont des pionniers comme M. Keefe, comme M. Héron, plusieurs autres dans d'autres familles d'églises aussi qui sont venus, certains d'Europe comme M. Beau qui a fondé l'église ici avec son épouse. Mais donc certains d'Europe, certains de la France, certains de la Suisse, plusieurs sont venus de l'Ontario, de l'Ouest, du reste du Canada. Certains sont venus des États-Unis aussi. M. Gazdick à travers les États-Unis est venu ici. Ces gens-là étaient souvent des gens très ordinaires, mais avec une vision et avec un cœur absolument extraordinaire. Et moi, j'ai eu le privilège de connaître M. Keith assez personnellement, premièrement comme un de mes professeurs à notre séminaire, Sam Beck. Et ça a été un homme qui m'a émerveillé parce que le Québec a toujours eu des besoins énormes. On est vraiment un champ missionnaire. On est un des champs missionnaires les moins atteints au monde, littéralement. Le champ missionnaire le moins atteint en Amérique. Ça, c'est absolument certain. M. Keith a toujours été prêt avec son épouse à faire tous les sacrifices nécessaires pour atteindre le Québec. Et donc, ils ont quitté l'Ontario. Pour résumer très brièvement, M. Keith était un joueur de hockey qui s'enlignait pour jouer dans le professionnel. Alors, dans sa jeunesse, il avait signé avec le club École de New York. Et donc, c'était signé. Il a eu une blessure dans un match de hockey. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, si je me souviens bien, c'est la rondelle qui l'a atteint à la tête. Et il était déjà chrétien à ce moment-là, mais il aurait pu tout simplement faire de l'entraînement et remonter sur la glace. Mais pendant son séjour à l'hôpital, ça l'a amené à réfléchir énormément et s'est demandé si, dans sa souveraineté, Dieu n'était pas en train de l'interpeller. C'est assez violent, n'est-ce pas, comme coup de téléphone. Mais effectivement, à ce moment-là, il a décidé de raccrocher ses patins. D'accrocher ses patins et de répondre à l'appel missionnaire pour aller servir, se préparer à aller en Afrique. Pendant les années de préparation pour pouvoir partir en Afrique, il a décidé de venir servir tout simplement un été, et donner un petit coup de main ici au Québec. Et en voyageant, en traversant le Québec en voiture avec son épouse, en faisant village après village après village après village, sans aucun témoignage chrétien, évangélique. Tout ce qu'il y avait, c'était l'Église catholique mur à mur ici, d'accord? Et le message de l'Évangile a été perdu à travers les siècles, malheureusement, dans l'Église catholique. C'est l'histoire de cette Église. Alors, traversant comme ça, ils voyaient que le message de l'Évangile ne pouvait pas se rendre aux Québécois et ils ont eu la conviction que Dieu les appelait à venir servir au Québec. Et ça a été un premier sacrifice énorme. C'était des années difficiles. M. Keefe a fait de la prison parce qu'il distribuait des Bibles. D'accord? On parle du régime du Plessis. C'était à cette époque-là. Et donc, ces hommes-là ont fait de la prison. Ils n'ont pas tous été battus. On n'a pas mis le feu à leur maison comme on le faisait à l'époque de Mme Feller. Mais ils ont été persécutés très agressivement quand même. Ils étaient précédés. Dès qu'ils arrivaient dans une région, dans un village, le curé les précédait, s'assurait que tout le monde soit bien au courant, qu'il ne fallait pas parler à ces gens-là. Si on étudiait la Bible avec eux, on risquait de perdre la tête. C'est la première chose qu'on a dit à maman lorsqu'elle a commencé à lire la Bible. Son père lui a dit, tu vas devenir folle si tu lis ce livre-là. C'est les curés qui peuvent comprendre ces choses-là. Et donc, ils ont fait des sacrifices sérieux. Quand moi, j'ai connu M. Keefe revenait des États-Unis parce que vers l'âge de 50 ans, le Québec lui a dit, les leaders lui ont dit, écoute, on a besoin, Ernie, d'avoir des gens qui ont une maîtrise. Parce que maintenant, les Québécois commencent à se convertir, on veut former des pasteurs. Et donc, vers l'âge de 50 ans, il a vendu son triplex avec son épouse, qui était leur fonds de pension. Ils ont pris l'argent qu'ils avaient avec cette vente-là. Ils ont financé leurs études aux États-Unis pour aller faire une maîtrise à 50 ans et revenir pour former les ouvriers. C'était ça, M. Keefe et Mme Keefe. C'était des gens comme ça. C'est des gens qui étaient assez ordinaires. Je me souviens d'entendre M. Keefe prêcher à Longueuil parce qu'on a eu le privilège d'être sous son ministère pendant 2 ans. Et je ne dirais pas que M. Keefe, c'était un prédicateur de grand talent, honnêtement. Je l'écoutais prêcher le dimanche matin, puis j'avais l'impression qu'il donnait nos cours à Sambeck. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens arrivent à suivre dans tout ça? C'est trop compliqué. La structure n'est pas claire. Où est-ce qu'il s'en va? Mais M. Keefe avait une vision claire, une passion qui brûlait dans son cœur, la passion de l'Évangile pour les Québécois. Et une fois, on était allé faire un peu de députation avec lui en Ontario, mon épouse et moi, Esther et moi. Et puis, on est arrêté à une station-service, puis il y a quelqu'un qui a arrêté M. Keefe pour demander des questions, puis il s'est mis à témoigner tout de suite. Puis Mme Keefe s'est juste tournée en disant, « Ah, il fait tout le temps ça. » C'était M. Keefe. C'était M. Keefe. La force de cet homme-là, c'était sa passion. Et lorsque moi je l'ai connu plus personnellement, c'est lorsqu'il est venu servir l'Église pendant 2 ans. Il me semble que ça aurait dû être un contexte décourageant pour des gens comme eux, parce qu'ils avaient tout donné pour répandre l'Évangile au Québec. Et lorsqu'ils venaient servir dans notre Assemblée, c'était au milieu d'une crise, un conflit doctrinal au sein de l'Église. Il est venu comme un bon père, venir apaiser des choses, venir mettre des choses en place, protéger l'Église de Christ à travers le processus. Et il l'a fait avec un amour impeccable, absolument impeccable. C'était son amour pour l'Église québécoise. C'était son amour. Excusez. C'est sûr que Dieu se souvient de M. Keefe. Dieu se souvient de Néhémie. Dieu se souvient de M. Keefe. Et j'écrivais hier soir dans mon journal, lorsque j'ai eu la nouvelle, je veux simplement avoir la moitié de la passion de cet homme-là pour gagner les Québécois à Christ. Juste la moitié de sa passion. On va vous prier. Éternel notre Dieu, Seigneur, les héros ne sont pas que du passé, parce que l'Évangile est aussi puissant aujourd'hui qu'à l'époque de l'apôtre Paul, qu'à l'époque du ministère terrestre de notre Seigneur. Ton message est aussi puissant et ta présence aussi manifeste qu'à l'époque de Moïse, de David, de Néhémie. Seigneur, tu règnes, tu régnais et tu règneras à jamais, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, pour avoir eu la grâce de connaître un héros, des héros comme M. et Mme Keefe, Seigneur. J'ai eu l'immense privilège de voir un homme ordinaire, animé, Seigneur, consumé, Seigneur, par l'Évangile et cette vision que tu lui avais donnée pour atteindre les Québécois pour Christ, pour apporter la lumière, Seigneur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, Ce qui fait dans la gloire, dans ta sainte présence. Le fardeau qu'il a porté sur son cœur pendant toutes ces années, Seigneur, pour le Québec, qui est aujourd'hui tombé, parce que tout ce qu'il voit, c'est ta gloire, Seigneur. Son cœur est en paix. Il a retrouvé Betty aussi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je te prie pour nous, Seigneur, qui restons en arrière. Accorde-nous la grâce, Père, de prendre le bâton et de transmettre, Seigneur, ce dépôt de l'Évangile aux prochaines générations avec la même passion, Seigneur, prêt au même sacrifice, ô Dieu. Que nous nous montrions dignes, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être réconciliés avec toi, Seigneur. Père, je veux te prier pour cette assemblée qui a été placée sous leur ministère pendant quelques années, Seigneur. Je te prie, Père, de susciter de cette Église des hommes et des femmes ordinaires, consumés, Seigneur, d'une passion extraordinaire, celle de répandre ta grâce, Seigneur, d'annoncer la grâce à tous les Québécois et jusqu'aux extrémités de la terre. Suscite, Seigneur, dans les années à venir, des hommes et des femmes ici qui vont être prêts à tout abandonner, Seigneur, pour se lever, avancer par la foi, te laisser les former, Seigneur. Et que nous ayons cette grâce de contribuer à envoyer ces missionnaires, à implanter des églises autour de nous, à Montréal, sur la rive sud, Seigneur. Seigneur, tu te souviens de M. Keefe et je me souviendrai de lui. Amen. On est en train de confirmer l'organisation pour le service. Dans les dernières années, M. Keefe était dans la région de Gatineau, donc je suis en communication avec Normand Joseph, qui était pasteur ici, qui est maintenant à Gatineau. Et en principe, le service devrait avoir lieu ici samedi prochain. Ça chambranle quelques affaires pour nos leaders, tout ça. On est en train de s'ajuster, évidemment. Mais on va vous tenir au courant, d'accord? Il reste des choses à confirmer de ce côté-là. Et donc, Dieu voulant, ça devrait se passer ici pour que ce soit central. Il va y avoir des gens d'Ontario, des gens de partout au Québec qui vont vouloir être ici. Alors, on va se tourner ensemble dans Néhémie 13. Néhémie 13, verset 1. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam pour qu'ils les maudissent. Mais Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Éliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir. Et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. On parle ici de ce qui devait être remis aux Lévites pour subvenir à leurs besoins pendant qu'ils étaient appliqués au service de la maison de Dieu. Ils n'avaient pas reçu ces argents-là pour subvenir à leurs besoins. Ils étaient donc repartis dans leurs régions respectives pour pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du moût et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia le sacrificateur, à Tsadok le scribe, à Pédaja l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes fouler le pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger des ânes, même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi nos pères? N'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Il restait juste l'autre bord du mur afin que certaines personnes puissent sortir en cachette et aller faire des transactions. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlait l'asdodien et ne savait pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos fils, vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le Horonite, qui était un ennemi depuis le début de l'histoire du livre de Néhémie. Je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Il y a des choses pas mal spéciales dans ce chapitre-là. Hein? Disons qu'il est intense, Néhémie. Lorsqu'il fait des réformes, il fait des réformes. Arrache les cheveux, frappe, maudit, Une malédiction, c'est énorme. Hein? On appelle la malédiction de Dieu sur quelqu'un lorsqu'on maudit. C'est ça qu'on fait. C'est ça des imprécations. On arrive à la fin du livre de Néhémie. Les réformes que Néhémie a apportées en Israël ont pris une douzaine d'années. Ça a été extrêmement long. Et les choses qu'il a apportées au peuple à cette époque-là vont porter du fruit pendant des années, pour ne pas dire jusqu'à l'époque de Christ, d'accord? Il y a des choses qu'il a réinstaurées, lui, Esdras et d'autres hommes qui étaient appliqués à le faire avec lui. Mais il y a des choses qu'ils ont réinstaurées qui vont porter un fruit à très long terme. Et vraiment, il y a des belles choses qui se sont passées. Et Dieu va se souvenir de Néhémie. La plus belle preuve, c'est qu'on a un livre en son nom, dans la Bible. Mais on voit que tout n'est pas rose. C'est vraiment particulier. La première fois que tu lis le livre de Néhémie et que tu vois tout ce que Dieu est en train d'accomplir à travers cet homme-là, c'est vraiment particulier que le livre se termine ainsi. N'est-ce pas? Ça ressemble pas vraiment à une histoire. Et ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, furent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le terme qui me vient en anglais, c'est « sobering ». Tout n'était pas rose. Et lorsque je lisais ce chapitre et que j'étais en train de méditer, après avoir été tellement béni à voir comment Néhémie a conduit les réformes, la reconstruction non seulement des murailles, mais cette vision qui était tellement plus grande que simplement des murs, ce qui m'a frappé ici, c'est qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien qui va venir remplacer un engagement entier envers Dieu pour opérer une véritable reconstruction avec Dieu. Une vraie reconstruction avec Dieu reposera toujours sur un engagement entier envers Dieu. Il n'y a absolument rien qui peut remplacer cela. Un cœur entier qui chasse les compromis qui veulent s'installer dans sa vie. Lorsqu'on lit ce dernier chapitre, voici ce qui nous frappe. Il n'y a aucune réforme, aucun cadre, aucun coach, aucun pasteur, aucune église qui va pouvoir remplacer un engagement personnel et entier avec Dieu. Néhémie était l'homme de Dieu qui avait été envoyé pour apporter des réformes spirituelles à Israël. Et vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Et vraiment, à travers toutes les démarches, il a mis de côté des éléments qui étaient très, très politiques et économiques pour amener le peuple à se concentrer sur Dieu. Avec Néhémie, on trouve la religion à son meilleur, d'accord? On trouve une religion qui est pure, pure et sans tache, comme nous dit Jacques, parce qu'elle est concentrée sur Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu, et elle se manifeste dans un amour envers le prochain. Et Néhémie a fait un travail extraordinaire, conduit par Dieu, pour conduire, ramener le peuple dans sa communion avec Dieu, dans sa relation personnelle avec Dieu. Et il y avait de la joie là-dedans. Il y avait de la joie, une joie intense. Cette alliance qui a été renouvelée avec Dieu, le peuple qui était dans la joie. Regardez avec moi un petit peu plus tôt au chapitre 12, vers la fin, le verset 43. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et l'on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. Les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Et comme on a vu la semaine dernière, Néhémie a apporté ses réformes de manière très, très, très pratique aussi. Et donc, on a réinstauré les choses, on les a mis en place, on s'est assuré que les Lévites allaient avoir justement ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent faire vivre leur famille tout en servant la maison de Dieu. Si vous regardez dans les versets qui suivent, celui que je viens de lire, au verset 44, la fin du verset 44, remettre les choses en place, s'assurer que justement les dîmes sont prélevées pour pourvoir aux besoins de ceux qui sont en train de servir dans la maison de Dieu. Et à la fin du verset 44, il est écrit « Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste. » Il y avait de la joie. Il y avait vraiment de la joie de servir Dieu. Et puis Néhémie est appelé à retourner auprès de celui qui était son maître ici-bas, parce qu'Israël était sous occupation. Il est rappelé auprès du roi, relevé de ses fonctions de gouverneur pour un temps. Et probablement qu'il se tenait au courant, il avait lieu de s'inquiéter. Après quelques temps auprès du roi, il a demandé la permission de revenir. Et lorsqu'il revient, il trouve Israël qui a déjà commencé à perdre sa passion. Il a commencé à faire des compromis. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réformes que Néhémie a apportées vont persister pendant des années durant. Tout ne s'effondre pas là. Mais Dieu dans sa sagesse, s'est assuré que nous aurions dans les Saintes Écritures le chapitre 13 de Néhémie. C'est important, c'est fondamental pour nous rappeler qu'il n'y a aucun cadre, aucune église, aucun programme, aucun coach, aucun pasteur, aucun papa, aucun maman qui va pouvoir faire la différence et pallier à un manque d'engagement personnel entier envers Dieu. Ce que Dieu cherche avec l'être humain, c'est une relation. C'est une relation d'amour qu'il cherche. Israël a déjà commencé à perdre sa passion et a commencé à faire des compromis. Pas des compromis dans le bon sens du terme. Il arrive qu'on a des compromis à faire, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un conflit, on est en train de chercher à trouver un terrain d'entente, puis on va faire des compromis. Il y a de la place pour ça. Non, je parle de ces compromis que nous faisons lorsque nous perdons notre passion. Et Israël a commencé à perdre sa passion et il commence à faire des compromis. Je vais les survoler très rapidement. Si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, il y a des choses vraiment étranges ici. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment étrange. Et vous avez besoin d'un peu plus d'instruction pour comprendre l'Ancien Testament. Mais je vais les survoler quand même rapidement. Verset 4. La religion, la relation avec Dieu, cette religion pure qui devait être vécue, est en train de se transformer en politique et en jeu de pouvoir. Alors, par des alliances, Tobija, qui est un ennemi des réformes que Néhémie essayait d'apporter depuis le début, par des alliances à travers le mariage, il a réussi à influencer et à se positionner. Imaginez un instant, Tobija a réussi à demander à ce qu'on vide tous les éléments qui sont sanctifiés, qui sont mis à part pour le culte de Dieu. Et il dit, dans la maison de Dieu, cette pièce-là, moi je la veux comme chambre personnelle. Ce qui est un blasphème en soi, d'accord? Mais au-delà de ça, il y a tout le jeu politique qui est là. C'est le temple de Jérusalem à Jérusalem, c'est le centre névralgique, c'est le cœur même de Jérusalem, c'est le cœur de Juda. Et lui a une chambre personnel dans le temple de Dieu. C'était un magouilleur de la pire espèce. Et vous voyez ici la religion telle qu'on la conçoit avec tous les préjugés qu'on a. Lorsque cette relation pure avec Dieu est en train de se transformer en jeu de pouvoir. Et c'est vrai que lorsqu'on politise, on instrumentalise la relation avec Dieu, lorsqu'on commence à politiser l'Église, lorsque ça sert pour des jeux d'influence personnelle, ça devient extrêmement puissant. Parce qu'on va jouer avec ce qu'il y a de plus intime chez l'être humain, son âme, son cœur. Et Tobija avait réussi à se placer là pour pouvoir faire ses jeux politiques, être en position d'influence. Lorsqu'on croisait Tobija, on saluait l'homme qui habite dans la maison de Dieu. C'était le rêve de David d'habiter tous les jours dans la maison de Dieu. Tobija habitait là. Israël perd sa passion, la politique, les jeux de pouvoir commencent à entrer. C'est un premier compromis qu'on voit ici. Deuxièmement, et versets 10 à 14, on arrête de donner de pourvoir pour les soins de la maison de Dieu. On arrête de pourvoir et de donner, et donc on commence à négliger la maison de Dieu. Et littéralement, ce qui se passe ici, c'est que Néhémie ne va pas s'en prendre aux Lévites. À un certain moment donné, les Lévites, à force de ne pas être capables de nourrir leur famille, décident de retourner dans leur terre, aller cultiver leur jardin, nourrir leurs troupeaux, puis dire, mais écoutez les boys, vous nous rappellerez quand, lorsqu'on pourra venir faire ça ici, puis nourrir notre famille. Versets 15 à 22. Dans nos termes à nous, voici comment je résumerais ça ici. Israël se voit comme un peuple de consommateurs 7 jours sur 7 et oublie une fois par semaine d'être des adorateurs. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Voyez-vous, Dieu avait consacré une journée par semaine, le jour du sabbat, Dieu avait consacré une journée par semaine pour que le peuple arrête de travailler, se repose et adore Dieu. Se rappelle une fois par semaine avec application qu'il n'était pas un peuple comme les autres peuples environnants, des gens qui vivent pour manger, boire, s'enrichir et mourir. Dieu leur avait dit de consacrer une journée pour qu'ils se rappellent qu'ils ne sont pas que des consommateurs. Mais ils sont des créatures de Dieu, des adorateurs de Dieu. Et Israël avait perdu ça de vue. Le jour du sabbat était une autre opportunité de faire un peu plus d'argent plutôt que de s'arrêter pour adorer Dieu. Enfin, les versets 23 jusqu'à la fin, on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais des gens en Israël commençaient à se marier avec des personnes qui adoraient d'autres dieux. J'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais ce que Dieu cherche et ce que Dieu attend de l'homme, c'est une relation personnelle. Ce qu'il attend, c'est une relation d'amour. Vous savez, le premier commandement qui nous est donné, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Il y a quelque chose d'un peu étrange dans ça parce que c'est un commandement d'amour. Et c'est vrai, si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, vous n'êtes pas familier avec ça, vous dites, mais comment on peut commander l'amour? Bien, laissez-moi quand même mettre un petit peu de perspective là-dessus. On parle quand même d'une relation d'amour avec Dieu. Alors, je ne vois pas vraiment Dieu venir et dire, je t'en supplie, je t'ai créé, pourrais-tu m'aimer? Ce n'est pas Dieu, ça. Ce n'est pas Dieu. Mais en même temps, c'est un commandement d'amour qui est donné. On aurait pu s'attendre de Dieu plutôt une phrase du genre « Je suis ton Créateur. Obéis. » Puis marche les fesses serrées, mon copain, parce qu'autrement, je t'élimine. Non? Il y a plein de dieux qui nous sont présentés sur la terre. C'est ainsi. On leur offrait même nos enfants en sacrifice à ces dieux-là, par crainte qu'ils nous punissent et nous châtient. Le premier commandement qui est donné à l'homme, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». C'est un commandement qui nous est donné, un commandement d'amour. Parce que ce que Dieu désire, c'est une relation d'amour avec nous. Et rien ne doit supplanter cette relation d'amour avec Dieu. C'est pour cette raison-là que Dieu avait interdit dans l'Ancien Testament, et Paul fait la même chose quand j'arrive dans le Nouveau Testament, il leur avait dit, mais qu'est-ce que vous allez faire si vous vous mariez avec des gens qui adorent d'autres dieux que l'éternel Dieu? Ils vont attirer vos cœurs ailleurs. C'est ça qui va se passer. Dieu est censé être ton premier amour. Et dans les faits, c'est ça qui est en train de se passer, effectivement. Certains de leurs enfants ne parlaient même plus l'hébreu. le livre de Néhémie met une emphase très, très importante sur le fait de lire la parole de Dieu, de la lire à nos enfants, que nos enfants puissent entendre la parole de Dieu afin qu'eux-mêmes, dans leur cœur, prennent cette décision de servir Dieu. Comment leur lira-t-on la parole de Dieu s'ils n'ont plus la langue pour l'entendre? Comprenez, on vit en 2011. La Bible, on la trouve dans toutes les traductions possibles. Ce n'était pas le cas, là. Et donc, ces gens ne pouvaient, ces enfants ne pouvaient même pas être exposés à la parole de Dieu. Mais Dieu désire cette relation d'amour avec nous, alors il demande cette relation unique. Dans le texte, pour ceux qui sont moins familiers avec tout le récit biblique, vous avez au verset 23, puis j'ai lu les versets 1 à 3 aussi, où Dieu semble très, très dur envers un peuple, et ça peut nous donner l'impression que Dieu était tout simplement raciste et en train de rejeter. Au verset 23, il dit: « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. » Il dit: « Vous ne ferez pas cela parce qu'elles adorent d'autres dieux. » Pour vraiment comprendre le message que Dieu est en train de donner ici, il dit: « Tant qu'une personne est en train d'adorer un autre Dieu, tu le considéreras comme un étranger. Si cette personne décide d'adorer l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, il ne sera plus un étranger pour toi. » Et Dieu, dans son ironie absolument extraordinaire, nous a donné une Moabite. J'ai fait allusion à ça la semaine dernière. Ruth. On a le livre de Néhémie, mais on a aussi le livre de Ruth dans l'Ancien Testament, qui était une Moabite. Mais Ruth avait abandonné les dieux de ses pères pour venir adorer l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Or, Ruth a épousé Boaz. Boaz est l'ancêtre de David, qui est l'ancêtre de Jésus. Et lorsqu'on arrive dans l'Évangile de Matthieu et qu'on lit la généalogie qui nous conduit jusqu'à Jésus, Ruth est mentionnée, Ruth la Moabite. Dieu n'est pas raciste. Dieu demande que nos unions reflètent notre passion pour lui. Dieu demande que nos mariages reflètent notre passion et notre adoration pour lui. Parce que le premier commandement avant celui d'aimer mon épouse, c'est d'aimer mon Dieu. Et lorsque ces choses-là sont en place, les autres tombent en place. Néhémie va jusqu'à parler de Salomon. Salomon, l'homme sage. Et en termes simples, ce que Néhémie est en train de dire, l'homme le plus sage n'a pas survécu au compromis. Salomon, c'était la sagesse incarnée. Il était près de Dieu, il pensait comme Dieu. Sa sagesse reflétait la pensée de Dieu littéralement. Et lorsqu'il ouvrait la bouche, les gens entendaient une sagesse divine sortir de là. L'homme le plus sage n'a pas survécu au compromis. Et nous, dans notre folie, nous pensons parfois que nous pourrions faire des compromis et tenir le cap avec Dieu. C'est ça que Néhémie est en train de dire ici. L'étranger n'est plus étranger lorsqu'il est enfant de Dieu. Et lorsqu'il a décidé de faire de Dieu son Dieu, aucun autre Dieu, il est dans la famille de Dieu. Mais Israël avait fait un compromis parce qu'ils avaient perdu leur passion. Et ils faisaient des alliances stratégiques, des alliances économiques. Ils contractaient des mariages qui leur permettaient de faire fructifier leurs affaires. C'est ça qu'ils étaient en train de faire. Exactement ça. Parce qu'à tout moment, il y avait des gens des autres peuples qui venaient à Jérusalem, qui venaient faire de la business avec eux. Mais des mariages qui profitent aux affaires, c'est aussi vieux que le monde. C'est ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils avaient perdu leur passion pour Dieu. Comme je le dis depuis le début, ce que Dieu cherche avec nous, c'est une relation d'amour. Et lorsque nous perdons notre passion, et c'est le cas dans tous les amours. Lorsque nous perdons notre passion, nous commençons à nous servir de la relation plutôt qu'à servir cette relation. lorsque deux amoureux se découvrent et qu'ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Ils sont là pour se servir l'un l'autre, non pas pour se servir l'un de l'autre. N'est-ce pas, l'amoureux n'a de yeux que pour l'amour de sa vie. Lorsqu'il rentre à la maison, on en a que couple ici, là, vous pourriez les regarder discrètement, vous les regarderez lorsqu'ils sont en train de parler à personne le dimanche matin, vous allez comprendre c'est quoi. Oh! Et de tous âges, hein? Pas juste des fréquenteurs. Mais lorsque la passion est là, on est là pour servir l'autre. Et lorsque la passion s'effrite, on commence à se servir de l'autre. Je ne rentre pas à la maison pour retrouver l'amour de ma vie. Je rentre à la maison pour recevoir ce qui m'est dû. Je ne rentre pas à la maison pour cultiver mon amour, la bénir, la chérir. Je rentre à la maison pour recevoir ce que je peux obtenir de cette relation. Voyez-vous, c'est vrai dans toutes les relations. C'est ça qui se passe ici dans la relation entre Israël et Dieu. C'est ce qui se passe dans votre foi si vous avez perdu votre passion pour Dieu. Vous regardez à la foi en mesurant ce qu'il y a à recevoir plutôt que de considérer l'amour passionnel que Christ a déployé pour vous à la croix et y répondre simplement avec votre passion. Et si vous avez perdu cette passion, vous êtes engagé dans le christianisme en cherchant les gains. En cherchant les gains. La religion est pour vous un outil en vue de. C'est toujours un très mauvais outil, la religion, lorsque c'est comme ça qu'on s'en sert. Ce que Dieu veut, c'est une relation passionnelle avec nous. Et Dieu n'est pas indifférent au cœur volage. Vous savez, c'est quoi avoir le cœur volage? C'est être libertaire, c'est être libertin, c'est se promener d'amour en amour sans aucune attache. Dieu ne reste pas indifférent au cœur volage. Il n'y a aucune passion dans mon cœur qui doit venir prendre la place de ma passion pour Dieu. Et cette espèce de grosse, grosse colère à laquelle on assiste ici avec Néhémie, c'est spécial. Quand tu n'es pas familier à ça, tu te dis, il est intense le bonhomme. T'sais, il rentre là, commence à leur arracher des cheveux, leur fout des baffes. Je m'excuse, mais c'est juste ça que j'ai comme image. Mais tout de suite, en le lisant, on pense à quelqu'un d'autre qui en a fait une méchante colère. Jésus dans le temple. Jésus est rentré dans le temple, renversé les tables des marchands qui étaient là et qui faisaient de la business. Puis il commençait à le dire... Cette maison devait être une maison de prière. Vous deviez venir ici pour entrer en communion avec Dieu. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Dieu cherche une relation d'amour avec nous. Et Dieu a en horreur ces adultères que nous faisons à son égard. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Lorsque Dieu, je m'en retourne dans la Genèse, mais restez avec moi dans l'Apocalypse, d'accord? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les place dans le jardin, il les bénit, il leur dit, regardez, vous allez tout avoir Walmart dans votre cour. Vous avez tout. Vous vous servez, c'est à vous, OK? Une chose, je suis Dieu. Je vous demande de ne pas faire ceci et de rester dans cette relation avec moi. Seule chose. Adam et Ève décident de dire non, on n'a pas besoin de toi. On pense qu'on est capable d'avoir d'autres dieux. Nous-mêmes, pourquoi pas? Bam! Malédiction. On arrive ici avec Néhémie, puis Néhémie commence à manifester toute cette colère divine devant des cœurs qui sont partagés. À la limite, si vous ne voulez pas adorer Dieu, quittez Jérusalem. Mais quittez Jérusalem, arrêtez de faire les hypocrites. Allez adorer d'autres dieux si c'est ça que vous voulez faire. Mais restez pas ici en disant que vous êtes des adorateurs de Dieu avec un cœur partagé. Parce que Dieu déteste l'hypocrisie. On arrive avec Jésus et Jésus entre dans le temple, fait à peu près la même scène que Néhémie. Parce que voyez-vous, on a un préjugé, on dit ça c'est l'Ancien Testament. Non, ça c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur d'un amoureux qui a été trompé. C'est ça. C'est ça. Et lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, Christ s'adresse à l'église de Laodicée, verset 14, voici ce qu'il dit. On est dans une vision ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Apocalypse, c'est un texte étrange parce que c'est un texte prophétique, mais apocalyptique. Il y a des visions qui sont données à l'apôtre Jean et il voit des choses qu'on ne voit pas normalement. Et il voit dans cette vision et il entend. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu, Christ lui-même. Voici ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Il cherche une relation d'amour intense avec nous. Intense avec nous. Une relation vraie, une relation entière. Et lorsque je perds ma passion, lorsque je perds ma passion pour Dieu, très rapidement, le cœur cherche à faire des compromis. Cette relation avec Dieu n'est plus servie. On veut se servir de cette relation à notre profit. On n'est plus là pour servir Dieu et l'aimer, on est là pour se servir de Dieu à notre profit. C'est ce qui est en train de se passer ici avec Israël. Il y a quelque chose de particulier à travers tout le livre de Néhémie que je voudrais souligner ce matin parce que je crois que c'est une des clés pour comprendre ce qui se passe ici, pour comprendre le chapitre 13, pour comprendre les Saintes Écritures aussi. Néhémie revient à plusieurs reprises avec une phrase toute simple, avec différentes variantes. Il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu », verset 14. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu », verset 22. « Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Et Dieu s'est souvenu de Néhémie. Parce que Dieu a vu dans le cœur de Néhémie, à travers toutes les réformes qu'il a apportées en Israël, il a vu le cœur d'un fidèle et bon serviteur. Et il ne fait nul doute que ce serviteur-là est entré dans la joie de son maître. Ça fait aucun doute. Dieu s'est souvenu de Néhémie. Dieu nous a donné un livre qui raconte son histoire. Et les croyants, depuis des siècles et des siècles, se souviennent de Néhémie. Mais ceci nous rappelle une chose à la fin du livre. Néhémie a beau apporter toutes les réformes qu'il voulait apporter, tous les efforts, tous les cadres, toute l'assistance, toute l'aide, toutes les réprimandes, tous les supports, tous les encouragements qu'il a voulu apporter à Israël. En définitive, Dieu regarde chaque cœur individuellement. Et c'est sur la base d'un cœur personnel, un engagement personnel avec Dieu qu'on va pouvoir marcher avec lui et reconstruire notre vie. C'est sur la base d'un engagement personnel. Néhémie dit « Souviens-toi de moi, ô Dieu. » Parce que Néhémie sait qu'en définitive, il est responsable de lui-même. Depuis toujours, le peuple de Dieu a avancé dans le service de Dieu en communauté. Depuis toujours, ça a été comme ça. Lorsqu'on marche avec Dieu, on le fait avec des condisciples, avec des gens qui sont aussi disciples de Jésus-Christ. Depuis toujours, ça a été comme ça. Mais il n'y a aucune église qui va pouvoir vous aider à grandir dans votre cheminement spirituel, à reconstruire dans votre vie. Il n'y a aucune église qui va pouvoir vous donner un cadre, un programme, qui va pouvoir pallier et suppléer à un manque de consécration personnelle. Aucune église va pouvoir le faire. C'est votre engagement à vous envers Dieu qui va faire la différence. Et ensuite, l'église va pouvoir vous appuyer. Les coachs vont pouvoir vous aider. Les pasteurs vont être là pour vous. La famille de Dieu va être là pour vous. Et évidemment, le livre de Néhémie pointe vers la venue de Christ. Parce qu'à travers toutes les réformes que Néhémie a apportées, seuls ceux qui avaient un cœur consacré ont vraiment emboîté le pas de cœur. Et pour que la réforme puisse se répandre en profondeur à tout le peuple, pour cela, il va falloir un cœur nouveau. Il va falloir un cœur nouveau. Et c'est Christ qui a ouvert cette possibilité-là aux croyants d'avoir ce cœur nouveau. Frères et sœurs, on termine la série sur Néhémie dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on termine ça. À travers le livre de Néhémie, on a vu des principes d'une sagesse extraordinaire. Je vais tenter de les résumer pour vous dans 2 semaines, d'accord? Et on va vous les donner par écrit, vous allez pouvoir partir avec ça. Mais ça doit commencer par une repentance personnelle. Ça doit commencer par une repentance personnelle, un engagement individuel, parce que la foi, c'est premièrement une relation d'amour avec Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, je veux te bénir parce que il n'y a que toi, mon Dieu, pour avoir une sagesse semblable, nous terminer ce livre merveilleux avec une image qui n'est pas si rose, Seigneur, profondément réaliste. Ta Bible, ta parole, Seigneur, nous parle avec énormément de réalisme du cœur humain et de la relation avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, Néhémie est certainement dans ta présence en train de célébrer ta gloire parce que tu t'es souvenu de lui. Et il ne me fait aucun doute, Seigneur, que tu as dit à cet homme, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Seigneur, hier soir, tu as dit à Ernest Keefe, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, je te prie de faire une œuvre puissante au milieu de nous par ton Esprit Saint, afin de réveiller les cœurs endormis, afin d'apporter la vie dans les cœurs qui sont morts parce qu'ils ne te connaissent peut-être pas personnellement. Seigneur, que tous nos efforts et tous nos programmes et toute notre musique et toute notre louange et toutes les prédications de cette Église, Seigneur, ne prétendent jamais remplacer cette passion véritable, cet engagement individuel avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, viens réveiller nos cœurs, viens réveiller nos âmes, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tes brebis entendent ta voix, que tu les appelles et qu'elles viennent à toi. Berger de nos âmes, fais-nous entendre ta voix. Et ceux d'entre nous qui se sont égarés loin de toi, Seigneur, fais-leur entendre à nouveau ta voix pour qu'ils trouvent le chemin jusqu'à toi, Seigneur, ce chemin d'une repentance profonde et véritable, afin de renouveler, Seigneur, leur engagement d'amour avec toi. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.
J'invite à vous.